الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، certes الله سبحانه وتعالى a comblé cette communauté par de nombreux bienfaits. Il n'y a aucun doute quant au fait que les plus grands bienfaits par lesquels Allah Azza wa Jal les a comblés soient le fait qu'il ait révélé Al-Qur'an al-Azim sur le meilleur des prophètes et messagers, Muhammad ibn Abdillah alayhi salat wa salam. Avant l'envoi du prophète alayhi salat wa salam, telle était la situation des gens. Ils étaient divisés, ils étaient affaiblis, ils étaient humiliés, ils étaient égarés, ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait autour de la Kaaba plus de 360 fausses divinités adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, l'unique, le seul à mériter l'adoration, tabaraka wa ta'ala. Ils se combattaient les uns les autres, le plus fort mangeait le plus faible. Ils opprimaient leurs voisins, ne respectaient pas les règles du bon voisinage. Ils commettaient les turpitudes, ils spoliaient les biens de l'orphelin et n'avaient aucun respect pour la veuve ni les faibles. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit qu'Allah a regardé les gens de la terre. Il les a tous détestés. Les Arabes parmi eux et les non-Arabes, si ce n'est une minorité parmi les gens du livre. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, des ténèbres de l'ignorance, des ténèbres du polythéisme, des ténèbres de la mécréance, des ténèbres de la division, il a envoyé l'ange Jibril alayhi salam sur le prophète Mohammed alayhi salat wa salam à la tête de ses 40 ans. Il lui est venu firari Hira, dans la grotte de Hira, et lui a dit Iqra, lis. Le prophète alayhi salat wa salam a répondu Ma ana biqari, je ne suis pas du nombre de ceux qui lisent. Il l'a saisi, l'a serré d'une étreinte telle qu'il a eu peur pour sa vie. Puis il l'a relâché. Une deuxième fois, il lui a dit « Lis ». Il lui a dit « Je ne sais pas lire ». Il l'a saisi, serré d'une étreinte telle où il a eu peur pour sa vie. Puis il l'a relâché. Une troisième fois, il lui a dit « Lis ». « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. » Et là, le prophète Mohammed alayhi salat wa salam est devenu le prophète d'Allah. Plus tard, il lui révélera Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fa'kabbir, wa thiyabaka fa'tahir, wa rujza fa'hjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fa'sbir. Et là, il est devenu messager. Et les versets n'ont cessé d'être révélé sur le prophète alayhi salat wa salam et messager jusqu'à ses 63 ans. De ses 40 ans à ses 63 ans, la situation de la péninsule arabie a été bouleversée, changée, réformée. Et ils ont pu, en un siècle, gouverner la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam s'est propagé aux quatre coins du monde. Cela nous laisse entendre l'immensité du Coran. Cela nous laisse comprendre la splendeur du Coran majestueux. Al-Qur'an al-Azim, c'est notre livre, nous les musulmans. Al-Qur'an al-Azim, c'est le miracle qu'Allah Azza wa Jal a accordé à son prophète et messager. Qu'est-ce que le Coran ? Al-Qur'an, kalamullah. La première chose à savoir, c'est que le Coran est la parole d'Allah. Ghayru makhluq, incréé. Car c'est l'attribut d'Allah Azza wa Jal et sa parole. Al-Qur'an, qu'est-ce que le Qur'an? Premièrement, Al-Qur'an ou Kalamullah, c'est la parole d'Allah qu'il a fait entendre à l'ange Jibril alayhi salam, l'ange de la révélation, qui est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le lui réciter, le lui transmettre. L'ange Jibril est un messager. Celui qui a parlé de par le Coran, c'est Allah Azza wa Jal. Et la parole, est-ce qu'on l'annexe au messager ou est-ce qu'on l'annexe à celui qui l'a mentionné en premier? Dites-moi. Hein? À Allah Azza wa Jal. C'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'il a fait entendre à l'ange Jibril, qui est descendu sur le prophète alayhi salat wa salam, et le lui a transmis. Dans une langue arabe claire, éloquente et parfaite. Cela a été mentionné par Allah Azza wa Jalla dans le Coran, lorsqu'il nous dit, wa innahu la tanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin, على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. C'est certes la révélation du Seigneur des mondes. Ruhul Amin est descendu avec, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. Sur ton cœur, c'est-à-dire le cœur du prophète Mohammed alayhi salat wa salam, afin que tu fasses partie du nombre des avertisseurs. Dans une langue arabe claire. Ça, c'est le Coran. Ce Coran a de nombreuses caractéristiques et de nombreux attributs. Et lorsqu'une chose a beaucoup de caractéristiques et d'attributs, ça t'enseigne de sa perfection, de sa splendeur, de son immensité, de sa grandeur. Allah Azza wa Jal nous dit Qaf wa al-Qur'an al-Majid. Al-Qur'an, il est Majid. Et c'est quoi al-Majd? C'est al-Sa'a wa al-Azama wa al-Baha. Al-Majd, c'est l'immensité. C'est la vasteté. C'est le fait d'être majestueux, d'être grand, d'être immense, d'être large. D'être lourd, le Coran, il est azim. Le Coran, il est azim, il est immense. Le Coran est karim. Il est noble. Et al-karam, c'est ijtima'u al-khisali tayyiba, al-hamid al-kamila. Al-karam, c'est quoi? C'est la réunion des nobles caractéristiques. C'est la réunion des nobles caractéristiques, c'est-à-dire des caractéristiques de perfection. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ce Coran dans son noble livre. Et une de ses caractéristiques les plus récurrentes et les plus spécifiques, c'est que c'est un livre de guidé. C'est un livre de guidé. Et la première dua du Coran, c'est quoi? La première dua du Coran. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Tu lis le Coran et la première dua que tu trouves c'est guide-nous au chemin droit. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Qui sont-ils? Ceux qui ont appris la science bénéfique et ont fait les œuvres pieuses. Al-ulama ou al-amiloun, les savants qui œuvrent et ceux qui les prennent pour exemple. Puis si tu prends la deuxième sourate du Coran, quelle est-elle? Non? Sourate al-Baqarah. Qu'est-ce que tu trouves dans sourate al-Baqarah? au début, caractéristiques du Coran. Puis, les caractéristiques des croyants. Puis, les caractéristiques des mécréants. Puis, les caractéristiques des hypocrites. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute une guidée pour les gens pieux voici les caractéristiques du Coran le Coran c'est donc un livre de guidée le Coran c'est un livre de guidée celui qui prend le Coran le lit, le médite, cherche à le comprendre et l'applique, il sera guidé. Dans Sourate Al-Isra, Allah Azza wa Jal nous dit « Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran 'azima aw kabira » Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une immense récompense. Donc le Coran, c'est un livre de guide. Ce Coran est un bienfait tellement grandiose qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné de te réjouir de la révélation du Coran. Subhanallah. Il te dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde de cela qu'ils se réjouissent c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser un jour Omar ibn Khattab était avec un jeune homme et il se réjouissait de la multitude de chameaux destinés à la sadaqa et de la largesse qu'Allah Azza wa Jal avait accordée aux musulmans et de la richesse. Et il s'est exclamé en regardant les nombreux chameaux « Hadha fadlullahi wa rahmatuh » Voici la grâce d'Allah et sa miséricorde. Omar ibn al-Khattab lui a dit « Kadhabt, tu te trompes. Ce que tu décris là, c'est le Coran. Puis il lui a récité le verset. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ C'est-à-dire l'islam et le Coran. Ou le Coran et l'islam. Le tafsir de Fadlullah et de sa miséricorde, la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est-à-dire l'islam et le Coran. De cela qu'ils se réjouissent. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Lorsque les gens vont se réjouir de la richesse, toi réjouis-toi du livre d'Allah Azza wa Jal que tu as. Lorsque les gens vont se réjouir d'être nombreux pour telle et telle chose, réjouis-toi toi des nombreux versets que tu mémorises du Coran. Le Coran, c'est une guérison. Ô combien sont ceux qui se plaignent de nos jours de tout type de maladies. Certains sont affectés dans leur raison, d'autres dans leur corps. D'autres dans leur sens, d'autres psychologiquement, d'autres affectivement, d'autres. Le remède, c'est le Coran. Même dans le comportement, la maladie comportementale, comme le fait d'être avare, d'être un radin, c'est une maladie. Le Coran vient soigner cela. D'être lâche, c'est une maladie. Le Coran vient soigner cela. D'être faible, le Coran vient soigner cela. De manquer de respect aux parents, c'est une maladie gravissime, pire que le cancer. Le Coran vient soigner ça. Le Coran, c'est le remède à tous nos maux. Wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un lin-nas. On révèle du Coran ce dans quoi il y a une guérison pour les gens. Le Coran, c'est une guérison. Le Coran, c'est la meilleure exhortation. Le Coran est la meilleure des exhortations. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ Vous est venu
une exhortation de la part de votre Seigneur. Le Coran, c'est la meilleure des exhortations. Elle fait bouger les cœurs. Elle fait couler les larmes. Elle adoucit et fait fondre le cœur dur comme la pierre. Elle fait couler les yeux, les larmes des yeux asséchées. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que même la dureté de la montagne et sa grandeur ne peut y faire face. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, dans Suratul Hashr, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. Si nous avions révélé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu se fendre par humilité. Une montagne, tu l'aurais vu se fendre par humilité. Allahu Akbar. Y a-t-il un cœur plus dur qu'une montagne? Allah Azza wa Jal, s'il avait révélé le Coran sur une montagne, la montagne se serait fendue par humilité. Avec le Coran, on peut soigner nos cœurs durs. Et cette dureté est due à l'insouciance, au péché et à la longue espérance de vie qu'on se prête et qu'on s'accorde. Le Coran, c'est le meilleur des récits. Allah nazzala ahsana al-hadith. Allah a révélé le meilleur récit. Le Coran a la perfection absolue. Kitabun uhkimat. Allah Azza wa Jal nous enseigne que son livre est parfait, ne comporte aucune imperfection. Et nous dit لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Si le Coran avait été d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Mais vu que c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla et son attribut, il n'y a aucune erreur, aucune imperfection, aucune dissension. Il nous dit dans Sourate Fussilat, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Le faux ne peut l'atteindre ni de devant ni de derrière. Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses propres éloges de par la révélation du Coran et a vanté sa perfection pour ce grand bienfait. Dans sourate Al-Kahf, الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الله عز وجل nous mentionne الحمد. Qu'est-ce que الحمد? Tous les jours on dit الحمدلله, n'est-ce pas? Avant de boire tu dis bismillah, après avoir bu tu dis الحمدلله, avant de manger tu dis bismillah, après avoir mangé tu dis الحمدلله, n'est-ce pas? Quand tu rentres dans la salade, tu recommences avec suratul hamd, n'est-ce pas? Quand il t'arrive un bienfait, tu dis alhamdulillah. Toute la journée, du matin au soir, tu es dans les bienfaits, tu dis alhamdulillah. Que veut dire alhamdulillah? Qui nous explique ce que signifie alhamdulillah? Cette parole qu'on entend tous les jours, au minimum 17 fois par jour, tu dis alhamdulillah dans chaque rak'a de chaque prière obligatoire. Si on ajoute à cela l'ouïd, si on ajoute à cela sunnatul fajr, si on ajoute à cela rawatib, et ainsi de suite. Si on ajoute à cela quand tu finis de manger, si on ajoute à cela quand tu finis de boire, si on ajoute à cela tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal pour lesquels tu le remercies au quotidien. Donc ma question, que signifie Alhamd? Naam. C'est pour remercier Allah. Mais le sens, ça c'est son utilisation. Mais le sens, que signifie Alhamdou? Quand tu dis Alhamdou Lillah, ça veut dire quoi? Que les louanges appartiennent à Allah? C'est quoi les louanges? Naam. Al-Thana ala Allah ma'al-mahabbat wa ta'zim.
c'est le fait de faire les louanges d'Allah Azza wa Jal avec amour et vénération. Si le hamd, c'est athana, comment se fait-il que dans le hadith d'Abi Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. ففرق بين الحمد والثناء. الثناء هو الحمد إذا تكرر. إذن ما هو الحمد؟ فهمت كلامي؟ هذا إرادة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ناقش كون الحمد تكون أن تكون ثناء. قال هذا الكلام ما يستقيم في نظر. وتبين لك الآن السبب صح؟ بارك الله فيك. Donc, qu'est-ce que Alhamd? Vous voulez qu'on continue le cours? Répondez à ma question. Quand tu veux trop poser, tu poses des questions. Non. Al-Shukr, c'est autre chose. Al-Shukr, c'est la reconnaissance. C'est reconnaître que le bienfait vient d'Allah, de le louer pour cela avec ta langue et d'utiliser son bienfait à la recherche de son agrément. Ça, c'est Al-Shukr. Et Shukr, c'est que face au bienfait. Alhamd, c'est face au bienfait, face à l'épreuve aussi. Al-Shukr, c'est avec la langue, les membres et le cœur. Alhamd, pas avec les membres. Faut être précis dans la science. Ça? Naam. Attribuer la perfection à Allah. Pour l'instant, c'est la meilleure réponse. Comment? Alhamd, c'est de dire qu'Allah est parfait. Et donc, il n'a pas de défaut. C'est ça? C'est sur le bon chemin. Naam. T'as retrouvé le chemin? Ça y est. Et pour répondre à ma question, je peux me tutoyer. Donc, ma ma'ana alhamd. Je réponds comme je me suis reposé. Alhamd que vous prononcez au quotidien, dont vous avez besoin au quotidien, signifie wasful mahmoud bil kamal mahabbatan wa ta'zima. وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال. الحمد, comme l'expliquent les savants, c'est le fait de décrire celui duquel tu parles par les attributs de perfection. Le cœur rempli d'amour et de vénération. Alhamd, tu parles d'Allah en décrivant de sa perfection. Allah est puissant, Allah est fort, Allah est savant, Allah est omnipotent. Ça, c'est le hamd. Tu le décris par des attributs qui sont des attributs de perfection. Ça, c'est avec la langue. Quand tu dis ça avec ta langue, ton cœur est dans quel état? Rempli d'amour pour Allah et de vénération. Alors que jadis, le bouffon du roi faisait les éloges. Mais c'était pas avec amour ou vénération. C'était avec désir ou effroi. Désir d'obtenir, de garder la vie ou d'obtenir de l'argent et peur de perdre la vie. Mais toi, quand tu fais les éloges d'Allah Azza wa Jal, c'est avec amour. Quand tu fais les éloges d'Allah Azza wa Jal, c'est avec vénération. Ça, c'est le hamd. Question subsidiaire avant de reprendre le cours. Allah Azza wa Jal yuhmad li amrayn ithnayn. Allah est loué pour deux choses. Lesquelles sont-elles? Qui répond et donne les deux bonnes réponses directement? Qui répond en donnant les bonnes réponses directement? Hein? En général, quand quelqu'un a un bras cassé, c'est qu'il manque de détermination. Lui-même, dans sa réponse, il n'est pas convaincu. Quand la personne, elle lève bien la main, comme si elle faisait shahada, hein, en général, il est déterminé, il a la bonne réponse. Hein? Et le frère est venu pallier au cassage de son bras en se mettant sur ses genoux. C'est avec la hauteur de la science qu'on va s'élever. Inutile de te mettre sur les genoux. Tu vas répondre et donner la bonne réponse. Tafaddal, inshallah. T'es pas déterminé. Quand je t'ai vu, j'ai su que t'étais pas déterminé. T'es déterminé? D'accord. On loue Allah pour deux raisons. Quelles sont ces deux raisons? Il y a deux causes qui font qu'on loue Allah Azza wa Jal. T'as bien compris ma question? Jamil, jiddan. Magnifique. Donc, le frère a dit, pour ce qu'Allah a fait pour nous. On va traduire ça, li, pour ses bienfaits. On va traduire ça en disant, pour ses bienfaits. Mais avant ça, li kamalihi, pour sa perfection. Wa li ihsanihi, pour sa bienfaisance. On loue Allah pour deux choses. Pour sa perfection. Et pour, c'est quoi la deuxième? Pour sa bienfaisance. Pour sa perfection et pour sa bienfaisance. Dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a accordé un enfant à Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Isma'il wa Ishaq. Il a loué Allah pour sa bienfaisance, pour son don d'enfant après un âge avancé. On loue Allah, on a dit pourquoi aussi? Sa perfection. Méditez. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Là, c'est quoi? Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Le créateur des cieux et de la terre. Alhamdulillahi rabbil alamin. On loue Allah, c'est le Seigneur des mondes. À chaque fois que tu vois l'hamd, médite. Tu verras soit une perfection descriptive d'Allah, soit tu verras un bienfait par lequel il nous comble. Tout ça, on l'a appris d'où? Du Coran. Du Coran. Subhanallah. Le Coran, c'est un livre de science ou pas? Le Coran, c'est un livre de science. Tibyan li kulli shay. Qui vient nous exposer toutes choses. Qui vient nous exposer toutes choses. Tout ce dont on a besoin, on le trouve dans le Coran. Le Coran, vous voulez qu'on continue dans les caractéristiques du Coran? Aïe. C'est un livre Mubarak. C'est un livre béni. C'est quoi le Baraka? C'est quoi El Baraka? On cherche tous El Baraka. Hein? El Baraka, c'est un concentré de bienfaits qu'Allah Azza wa Jal met dans une chose. Dans un moment, dans une époque, dans une période, dans une chose, dans une action, dans une parole. Beaucoup de bien et la constance. C'est ça le baraka. Thubutul khayr ilahi fi shay. Beaucoup de bien et la constance, ça reste. Comment on appelle une flaque d'eau en arabe? Hein? El birka. Pourquoi? Parce que c'est concentré et ça reste. D'où le terme El Baraka. Comment est-ce qu'on appelle le chameau qui prend place au sol? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Baraka al-Ibil. Pourquoi? Va relever un chameau quand il s'est mis en position, tu vas voir le temps que ça prend. Hein? Parce qu'il reste, il bouge pas. Le Coran, il est Mubarak. C'est-à-dire, si tu le lis, si tu l'écoutes, avec méditation, tu le comprends, tu l'appliques, ta vie deviendra bénie. Il y aura énormément de bien dans ta vie et ça sera régulier, ça va rester. La baraka dans ta vie au quotidien, la baraka dans ta vie quand tu te réveilles, quand tu te couches, quand tu marches, quand tu pries, quand tu jeûnes, la baraka dans ta vie avec tes parents, avec ton épouse, avec tes enfants, la baraka dans ta vie, dans ton travail, dans ton dîme,
La baraka dans ta vie quand tu vas rentrer dans ta tombe. Vous voulez un exemple dans la tombe? La baraka dans ta vie, yom al-qiyama. Quand on va venir voir l'adepte du Coran et on va lui dire iqra wa rattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka fil janna akhir ayatin taqra'uha. On dira à l'adepte du Coran, lis, sale maudit, et élève-toi, c'est-à-dire dans les degrés du paradis. Ta place au paradis sera au dernier verset que tu récites. C'est Moubarak ou c'est pas Moubarak? C'est un livre Moubarak. C'est un livre qui vient régler tous les maux. C'est un livre qui nous apporte tout le bien, qui repousse tout le mal, qui soigne et éloigne de nous tous les maux. Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de lire ce Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de lire ce Coran. Il nous dit, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. Lis ce qui t'a été révélé de la part, ou lis ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Lis ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. De lire le Coran, c'est donc une adoration. Comment on sait que de lire le Coran, c'est une adoration à travers ce verset? Comment est-ce qu'on reconnaît l'adoration? Ça, c'est une grande question. Il faut un grand homme pour répondre à cette question. Hein? Ça, c'est une grande question. Et pour les grandes questions, il faut quoi? Hein? Un grand homme. Tu te vois grand? Ça, c'est une question piège. Si tu réponds non, on va dire tu réponds pas. Alors si tu réponds oui, on va dire il est orgueilleux lui. Quand ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, anta khayram Abdul Muttalib. C'est toi le meilleur ou c'est ton grand-père Abdul Muttalib? Hein? Donc, comment est-ce qu'on reconnaît une adoration? Qui a la réponse?
C'est tout ce qu'Allah a agréé qu'il a rendu obligatoire.
Donc, si là tout de suite je dis subhanallah, ça c'est pas une adoration, parce que c'était pas obligatoire que je le dise. T'es d'accord avec ce que tu viens de dire? Tu reviens sur ta parole, tu te corriges. Qu'Allah te récompense. De revenir sur sa parole, c'est l'action des hommes. C'est pas facile pour tout le monde de revenir sur sa parole. Ça c'est l'action des hommes. Félicitations. Tout ce que Allah a ordonné. Ça, c'est la définition de l'adoration. D'accord. Là, si je dis Alhamdulillah, est-ce que ça, c'était obligatoire ou pas? De le dire tout de suite maintenant. Non. Ça, c'est pas un ordre. C'est une adoration ou pas? Oui. Alors. Qui va donner une réponse complète? Pour qu'une définition soit bonne, faut pas qu'on puisse te mettre dans la gêne et la difficulté comme je viens de le faire. Il faut que ça remplisse ce qu'il faut et que ça fasse sortir ce qu'il ne faut pas. C'est ce qu'on appelle jami' mani'. Ça remplit ce qu'il faut et ça enlève ce qu'il ne faut pas. C'est une bonne réponse en réalité, mais c'est incomplet. C'est pour faire travailler la gymnastique du cerveau qu'on fait cet échange-là. Ou vous voulez qu'on fasse la conférence où on parle seulement et vous écoutez? Hein? Vous voulez qu'on échange? Même si ça va te pousser à revenir sur tes paroles plusieurs fois, ça te dérange pas? D'accord. Non. C'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas cité ce terme. Tu m'as répondu oui, mais Allah l'aime. Alors ça rentre dans l'adoration. Ensuite, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée. Comme acte et parole. Apparent ou caché. Alors c'est mieux que tu dises parole et acte, apparent et caché.
Naam. Jamil. Ça, c'est la définition de l'adoration. N'est-ce pas? Et moi, ma question, c'était quoi? Comment on reconnaît l'adoration? Dans cette définition, il y a quelques points pour reconnaître l'adoration, mais pas tout. Vous avez compris ou pas? Heureusement que c'est pas moi qui note les contrôles. Jeune homme. Si Allah fait l'éloge d'un groupe, sensationnel, splendide, royal, magnifique, et je connais encore plein de synonymes pour toi. Donc, si Allah fait l'éloge d'un groupe, finis ta phrase. Non, quand tu donnes une réponse, il faut faire une phrase complète. Là, j'ai deviné la réponse. Si Allah fait l'éloge d'un groupe, quoi? C'est qu'il aime et agrée l'acte. C'est donc une adoration. Si tu parles à quelqu'un dehors et tu dis juste le début de ta phrase, tu penses qu'il comprend? Faut que tu fasses toute la phrase que tu as faite. Excellente réponse. Jazakallahu khairan. MashaAllah, jamil jidda. Ici, on a un point pour reconnaître une adoration. Écoutez bien. Si Allah fait l'éloge d'acteur suite à une action, écoutez bien, c'est qu'il aime et agrée cette action-là. C'est donc une adoration. Par exemple, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Allah Azza wa Jal, dans Suratul Anbiya, fait les éloges de ses prophètes, de ses serviteurs vertueux, vertueuses, puis dit, selon la traduction des sens du verset, ils se concurrençaient dans les bonnes œuvres. Ici, il fait leurs éloges. Et nous invoquaient avec désir et effroi. Et ils étaient envers nous pleins d'humilité. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal fait les éloges de ses serviteurs pour plusieurs caractéristiques. L'empressement dans les bonnes œuvres, ad-du'a, ar-raghba et ar-rahba. Ar-raghba, on peut le traduire peut-être par le désir. C'est ar-raja avec un empressement. C'est un espoir avec un empressement dans les œuvres. Et ar-rahba, on peut le traduire par l'effroi. C'est une peur avec une fuite et des actes. Hein? Ar-raghba et ar-rahba sont deux grandes adorations, qui sont la perfection de la peur et la perfection de l'espoir, dans le sens inverse. On a donc ce qu'Allah a ordonné. On a donc, lorsqu'Allah fait les éloges d'acteurs suite à une action, qu'est-ce qu'on a d'autre? N'avais-je pas dit que c'est une grande question? Et qu'il nous fallait un grand homme? Vous avez ri et maintenant vous avez besoin d'être unis? Ahsan, zakallahu khairan. Si Allah Azza wa Jal mentionne une récompense, il rattache une récompense à une action. Il rattache une récompense à une action. Celui qui fait ça, il gagnera ça. Celui qui fait ça, obtiendra ça. Naam. Man salla al-bardayn dakhala al-jannah. Celui qui prit les deux fraîcheurs, le fajr al-asr, rentrera au paradis. On a rattaché ça à quoi? Au paradis. Paradis, c'est une récompense. On peut dire une bonne rétribution. C'est que ça, c'est une adoration. Compris? Vous en avez encore? Naam. Naam, il a mentionné celle-ci. T'as autre chose? Pour l'instant, ça va? Masha'Allah. T'as autre chose? Had. J'ai pas entendu. Si Allah stipule explicitement dans un texte l'adoration. Naam, Jamil. Ad-du'a huwa al-ibada. Par exemple. Si on cite directement que telle chose est une adoration. Naam. Autre chose? Lorsqu'Allah joint à son délaissement un châtiment. Jamil. Celui qui délaisse telle chose, il a telle punition. Man taraka as-salah faqad kafar. Man taraka faqad kafar. Celui qui la délaisse sera mécro. Taïb. Quoi d'autre? Normalement, tout le monde répond. Ah, c'est l'adoration. C'est pourquoi Allah nous a créés. C'est le droit d'Allah Azzawajal. Si on donne ça à un autre qu'Allah Azzawajal, c'est du shirk akbar. On est obligé de connaître ça. Hein? Il y a un très grand livre d'un très grand savant qui s'appelle Thalathatul Usul. Les trois fondements. Il faut l'étudier. Il faut noter, comprendre, mémoriser. Emma, tu t'assois et une personne a parlé de Thalathatul Usul et tu dis, je connais Thalathatul Usul. C'est pas comme ça. Hein? Quand tu sors de Thalathatul Usul, t'as de la science. Si tu l'as étudié comme il le fallait. Donc, rapidement les frères, ensuite on continue. Naam, ça c'est du iman, mais les moyens de reconnaître cela. Si on rattache une chose à la science d'Allah, c'est pas toute science, mais c'est une excellente réponse que je ne pensais pas que tu pouvais mentionner. Je t'ai sous-estimé. Naam. Donc, quelle est la preuve, par exemple, que an-nadhr, le vœu, est une adoration? Quelle est la preuve que le vœu, an-nadhr, est une adoration? J'ai pas entendu, excuse-moi. Oui, mais quelle est la preuve que c'est une adoration? Nous, on a mentionné là les moyens de reconnaître une adoration. Yufuna al-nadhr. Ça, c'est la preuve que de tenir son nadhr, c'est aimer chez Allah, c'est une adoration. Tenir son nadhr. Mais le faire, le nadhr. L'Allah Azzawajal fait les éloges de ceux qui ont tenu leur engagement dans le vœu. Mais avant ça, là, tout de suite, un vœu, c'est une adoration. C'est quoi la preuve? T'as compris le problème ou pas? Comme si moi, je te parlais de faire un crédit et toi, tu me parles de rembourser le crédit. Non. Lorsqu'on fait pour la face d'Allah, c'est une adoration. Mais c'est quoi la preuve que le nadhr, c'est une adoration? Qui va sauver la communauté? Apporter la bonne réponse. Toi, jeune homme, t'as la réponse? Non? T'as juste la classe. Allahumma barik. Alors imagine, tu as la classe et la réponse. Tu dépasses tout le monde. Hein? Il n'y a personne qui est mieux que toi. Inch'Allah, tu vas apprendre, tu vas dépasser tout le monde. Ils sont pas grands en vrai. Ils sont en train de vieillir, tu vas tous les dépasser, tu vas prendre ma place, Inch'Allah. D'accord? Et c'est pas dur. Donc, Naam Akhana. Même pas dans cette sourate. Ouais. Je redonne la réponse. Tu donnes ta langue au lion? Oui? T'as désespéré d'eux? Il y a ton grand frère dedans, quoi. T'arrives pas à répondre? Non? Khalas, les frères? Vous abandonnez? Non? La réponse. Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché le nadhr à sa science. Et dans certains contextes, tu verras que c'est la science de laquelle découle la rétribution.
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ.
Dans Sourate Al-Baqarah, et vous ne dépensez pas, ni ne faites de vœux, sans que ça ne soit rattaché à la science d'Allah. Sans qu'Allah le sache. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait rattaché le vœu à sa science, c'est quoi la sagesse? Allah l'a su. Tu as fait le bien, Allah l'a su. C'est quoi la finalité? Vu qu'il l'a su, il va te récompenser. Et on a vu tout à l'heure, ah non, on ne l'avait pas vu, que lorsqu'on rattache une bonne œuvre à une bonne, si on l'a vu, à une bonne rétribution, c'est quoi? Hein? Quand on a dit celui qui prie les deux fraîcheurs entre au paradis, c'est une adoration. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne rétribution. D'accord. Quand on rattache à la science d'Allah Azza wa Jal, c'est pourquoi? Juste la science et ça s'arrête? Allah Azza wa Jal est généreux. Il a rattaché à sa science pour te dire, alors je vais te récompenser. Donc c'est quoi? C'est une adoration. C'est une adoration. Ça, c'est un des points très subtils qui permet de reconnaître une adoration. C'est le fait de rattacher l'œuvre à la science d'Allah Azza wa Jal qui comprend la rétribution. Barakallahu fikoum. Ikhwat al-Iman, on va passer au deuxième point après avoir parlé du Coran, après avoir donné un peu de description du Coran. Le Coran comporte combien de sourates? 114. C'est ça? Ça commence par quelle sourate? Al-Fatiha. Dans le Fatiha, la demande c'est quoi? Dans le Fatiha, il y a une demande, n'est-ce pas? C'est quelle adoration? Al-Du'a. D'accord. Quelle est la dernière sourate du Coran? Al-Nas. Qu'est-ce qu'il y a dans le Nas? Al-Du'a. Allah Azza wa Jalla a commencé le mushaf par Al-Du'a. Il a fini par Al-Du'a. Le Coran c'est un livre de quoi? De Du'a. Hein? Le premier verbe cité dans Surat Al-Fatiha, c'est quoi? Iyaka na'budu. Le deuxième? Wa iyaka nasta'in. Al-Ibada, c'est le but de la création. Al-Isti'ana, c'est le moyen qui permet de le concrétiser. Iyaka na'budu, c'est le but. Wa iyaka nasta'in, c'est le moyen, la demande d'aide, c'est auprès de toi seul qu'on recherche l'aide. C'est le moyen qui te permet d'adorer Allah Azza wa Jalla. Avec le premier, tu es préservé du shirk. Avec le deuxième, tu es préservé de la vanité et de l'orgueil. Naam. Quand tu dis yaka na'budu, tu n'adores qu'Allah, nul autre qu'Allah, tu es protégé du shirk. Quand tu dis wa yaka nasta'in, tu dis je suis faible, sans toi Allah Azza wa Jalla, je ne peux faire aucune adoration. Alors tu es humble, tu es préservé de l'orgueil et de la vanité. C'est un livre de ibadah. C'est un livre de dua. Pour obtenir tout ce qu'on a cité, est-ce que ça suffit de lire le Coran? Bien que la récompense de la lecture, comme on le mentionnera à la fin, elle est immense. Mais il nous faut une grande clé. C'est quoi cette clé? At-tadabbur. Ça veut dire quoi, at-tadabbur? La méditation. Tu lis le Coran, tu écoutes le Coran en cherchant à le comprendre. En cherchant à le comprendre pour l'appliquer. À cet effet, il n'y a pas moins de 4 versets sur ce thème. Allah Azza wa Jal nous dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَعَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا أَمْ لَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلَ. N'ont-ils pas médité la parole? Ne vont-ils pas méditer le Coran ou ont-ils des cadenas sur leur cœur? Ne vont-ils pas méditer le Coran? Si cela avait été d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal nous appelle à méditer le Coran. Allah nous dit même qu'on ne tirera pas véritablement profit du Coran sans cela. À la fin de Surat Qaf, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Il y a dans cela, ce qui est passé dans Sourate Qaf, un rappel pour tout le monde. Non. Pour celui qui tend l'oreille, ça c'est le fait d'être attentif à la lecture du Coran. Ou alqa sam'a liman kana qalbun, pour celui qui a un cœur. Ça c'est la première étape. Alqa sam'a, tend l'oreille, wa huwa shahid, il est présent. Tu peux être dans un cours mais t'es absent. Tu peux être dans un cours mais tu es distrait. Si tu réunis ces choses-là, tu tireras profit du Coran. Donc il faut absolument méditer le Coran. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala disait: "Unzila al-Quran liyu'mala bih, fattakhadha an-nas tilawatahu 'amala." Le Coran a été révélé pour son application, les gens ont fait de son application une simple lecture. Le Coran n'a pas été révélé juste pour qu'on se concurrence dans la beauté de sa lecture. Ça, c'est une bonne chose et c'est demandé. Mais c'est pas le but et la finalité. C'est son application, la finalité. Et pour l'appliquer, il faut d'abord le comprendre. Et pour le comprendre, il faut le méditer. Naam. Ce Coran-là, Ikhwat al-Iman, a été révélé sur quel peuple? Là, on va parler du miracle du Coran. Ce Coran-là a été révélé sur quel peuple? Hein? Mushrikul Arab. Sur les Arabes polythéistes qui étaient Fusaha, qui étaient les plus éloquents. Qui sont-ils? Quraysh. Barakallahu fik. Quraysh. Sans aucune concurrence. Les plus nobles en lignage et les plus éloquents en verbe. Personne ne les concurrençait. Ils faisaient des concours entre eux. Personne ne leur arrivait à la cheville. Et retenez cela. Allah Azza wa Jal, pour montrer la véracité de la prophétie de son messager, envoie toujours un prophète avec un miracle qui vient défier la capacité humaine. Comprenez? Dans quoi excellait le peuple de Isa? Hein? Dans la médecine. Et Isa venait soigner de la dépigmentation qu'on n'arrivait pas à le faire. Il faisait revivre les morts. Est-ce que la médecine peut faire ça? Non. Voyez, Moussa alayhi salam a été envoyé à quel peuple? Hein, ou plutôt à un peuple qui excellait dans quoi? Al-sihr, wal-iyadu billah, la sorcellerie, qui est du kufr billah il-adhim. Moussa alayhi salam est venu avec le bâton. Hein? Qui a fait des œuvres des sorciers à l'heure de Duha où tout le monde était réuni en plein jour, après avoir réuni tous les sorciers de toutes les contrées possibles. Il les a tous mis en déroute. Quand ils ont vu ça, ils ont su que c'était pas de la sorcellerie, parce que c'était les savants de ce domaine-là. Alors ils ont reconnu que ça venait d'une force surhumaine, que ça venait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont convertis à l'islam directement. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون se convertit immédiatement. طيب. Et on pourrait citer encore d'autres personnes. طيب. Le prophète Mohammed alayhi salat wa salam revient au début. Il a été envoyé à un peuple qui excellait dans quoi? Dans la poésie, dans l'éloquence. Et lui, il est venu avec quoi? Avec le Coran. Allah azza wa jalla, eux ont dit: in hadha illa qawlul bashar. Ça n'est que la parole d'un homme, il a déterré un livre, c'est quelqu'un qui lui enseigne en cachette, et j'en passe. Allah Azza wa Jal leur a dit: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Dit, dans Surat al-Isra, si l'ensemble des humains et des djinns se réunissent pour amener un Coran semblable, ils ne pourront amener un Coran semblable, quand bien même ils s'aideraient les uns les autres. L'ensemble des humains, l'ensemble des djinns n'a pas la capacité de ramener un Coran semblable. Vu que vous prétendez que ça n'est pas la parole d'Allah et que ça, c'est la parole d'un homme, et que vous êtes les maîtres de la prose et de l'éloquence, amenez un Coran semblable. Ils ont échoué. Alors on a allégé l'épreuve. Ashri Suwarin Muftarayat. Dix sourates. ils ont échoué. Allez, une courte sourate. Juste une courte sourate. Ils ont échoué. Le seul qui a eu le manque de pudeur de tenter s'est ridiculisé jusqu'aujourd'hui. En parlant d'un éléphant et en parlant d'une trompe et en parlant de ceci ou de cela, il s'est ridiculisé. Il s'est humilié. Des générations après générations, on mentionne son humiliation. Au début des sourates, de beaucoup de sourates, qu'est-ce que tu trouves? Au début de l'Baqara, qu'est-ce qu'il y a? Au début de l'Al-Imran, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Des lettres alphabétiques. D'accord? Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Kaf, ainsi de suite, n'est-ce pas? Quelle est la sagesse? Quelle est la sagesse de ces lettres? C'est des lettres ou c'est des mots qui ont un sens? C'est des lettres. Si je te demande la lettre P en français, ça veut dire quoi? Tu vas me dire, c'est pas, hein. Huruf al-ma'ani, c'est huruf al-mabani. Donc c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est de dire, ya mushrik al-arab. Oh, vous les polythéistes arabes, les maîtres de l'éloquence et de la langue arabe, vous prétendez que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Voici les lettres du Coran. Voici les lettres que vous utilisez, vous, dans vos mots. Et vous, dans vos expressions et votre communication. Et pourtant, vous n'avez pas réussi à amener une seule sourate semblable au Coran. C'est donc réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la sagesse. Wa in ahadu min al-mushrikina astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Allah azza wa jalla, le Coran nous dit c'est la parole d'Allah, eux disent quoi? In hadha illa qawlul bashar. Celui qui dit ça, Allah azza wa jalla le met en enfer. Sanuslihi saqar. C'est quoi saqar? C'est un des noms de l'enfer. C'est un des noms de l'enfer. Ça, c'est un des miracles du Coran. C'est le fait que malgré l'éloquence et la maîtrise de la langue, personne n'ait réussi à amener un Coran semblable. Barakallahu fikum. Parmi les miracles du Coran, l'effet qu'il a sur les cœurs. L'effet qu'il a sur les cœurs. L'effet qu'il a sur les cœurs croyants. Il fait couler les larmes. Il fait fondre les cœurs. Il donne la guidée après l'égarement, la santé après la maladie, la richesse après la pauvreté. Quel livre au monde tu peux réciter tous les mois sans jamais te lasser? Hein? Les gens, tu leur dis, lis ça, étudie ça, ah, ça c'est bon, je l'ai déjà lu. Mais jamais t'as vu un musulman dire, ça c'est bon, je l'ai déjà lu pour le Coran. Ah ben, damn. Plus il le lit, plus il découvre de ses splendeurs, de ses bonheurs, de ses guidés. Il prie dans Suratou, il prie dans Salatou Tarawih, il est dans Salatou Witr, il entend le Fatiha, c'est comme si c'était le début du Isha où il entendait le Fatiha. Il prie Salatou Fajr avec El Fatiha, il arrive au Isha avec El Fatiha, il ne s'en lasse pas. Ça, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla et son miracle. Depuis ses 10 ans, peut-être, il prie Salat ou Tarawih. Il en a 70. Il se délecte toujours encore plus dans Salat ou Tarawih. Pourtant, le Coran, c'est le Coran. La parole d'Allah est restée la parole d'Allah, Azza wa Jal. Inchangée, incréée. Ça, c'est le miracle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. El-Ajami, le non-arabe, il est dans Salat ou Tarawih. Il ne comprend pas le Coran. Il fond en larmes. Et toi, tu comprends l'arabe, tu fonds pas en larmes. Par son iman, Allah Azza wa Jalla lui fait ressentir la grandeur du Coran. Il pleure. Il comprend même pas. Il sait juste que c'est la parole de son Seigneur. Il pleure. Ça, c'est le miracle d'Allah Azza wa Jalla. Naam. Ce Coran est tellement azim que certains parmi les sahaba le lisaient, ils tombaient malades comme Amr ibn Khattab ou Abdullah ibn Omar et autres en entendant du Coran. Naam. Barakallahu fikum. Le Coran est tellement azim qu'il a transpercé le cœur de certains qui n'étaient même pas musulmans. Jubair ibn Mut'im, un soir entend la récitation du prophète alayhi salatu wa salam de Surat al-Tur dans Al-Maghrib, si je me souviens bien. Salatul Maghrib. Il entend Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Il n'était pas musulman. Il a dit comme cela. Kada qalbi an yatir. Mon cœur a failli s'envoler. Il n'était pas musulman. Il a entendu seulement. Il a dit Kada qalbi an yatir. Mon cœur a failli s'envoler et c'est la première fois que la foi pénétra mon cœur. A pénétré mon cœur. Il est rentré en islam. Il est rentré en islam. Parce qu'il a médité cette parole et c'était un arabe, il comprenait le sens. Il comprenait le sens. Et malheureusement, maintenant, il y a des gens qui sont dans l'islam, mais ne comprennent pas l'arabe. Alors que l'arabe, c'est la langue de l'islam. T'es musulman, tu dois étudier l'arabe. C'est obligatoire. Tu dois savoir lire le Coran et comprendre ce par quoi tu vas adorer Allah Azza wa Jal. Ibn Taymiyyah disait, l'uratul arabiyya min ad-din. La langue arabe fait partie de l'islam. وَتَعَلُّمُهَا فَرْضٌ لَازِمٌ Et son apprentissage, c'est une obligation qui incombe à chacun. C'est une obligation qui incombe à chacun. Tu dois comprendre « La ilaha illallah »« Muhammadur Rasulullah » Tu dois comprendre « وَأَقِيمُ الصَّلَاةُ وَآتُ الزَّكَاةُ » Tu dois comprendre. « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » Tu dois comprendre. « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا » Tu dois comprendre. « وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » Tu dois comprendre. Il y a des choses, c'est obligatoire. Tu dois les comprendre. Il y a les interdits aussi, tu dois les comprendre. أَلَّا تُشْرِكْ Ou plutôt, وَلَوْ أَشْرَكُ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Tu dois comprendre. Naam. Si le prophète عليه الصلاة والسلام avait été présent, ça veut dire on serait assis sans rien comprendre comme ça, sans aller chercher à comprendre ses paroles. Mais son héritage, il est présent. C'est un hadith consigné dans les livres. La parole d'Allah Azza wa Jal dans le mushaf. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller étudier l'arabe? Qu'est-ce qui t'empêche? Hein? Il faut étudier la langue arabe. Il faut apprendre la langue arabe. C'est la clé de la science. Et ne vous laissez pas tromper par toutes ces traductions que vous voyez. Il faut la langue arabe. La traduction, c'est comme le parterre dehors où tu fais tayammum quand il n'y a pas d'eau, quand tu ne peux pas utiliser l'eau. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te rouler par terre tous les jours. Hein? Tu dois aller apprendre la langue arabe et en cas de force majeure seulement, tu vas aller dans la traduction. Et alhamdoulilah, qu'Allah récompense tous ceux qui font ces efforts-là. Mais ils ne vous ont jamais dit délaisser la langue arabe. Barakallahu fikum. Jubair ibn Mut'im s'est converti à l'islam des suites de l'écoute de ce verset. Parmi les choses très étonnantes, c'est que non seulement le Coran a eu un effet sur les gens de ce bas monde, na'am, parmi les humains, mais il a aussi eu un effet sur el djinn. Le prophète alayhi salatu wa salam revenant de Taif, attristé, s'est arrêté dans un endroit et a prié de nuit rester le Coran. Des djinns de Narsibin sont passés, et ils ont entendu sa lecture, ils se sont arrêtés, ont écouté, ont médité, ils se sont convertis à l'islam, et sont partis prêcher. Allahu Akbar. Des djinns. Dans Suratul Djinn, Allah Azza wa Jal nous dit, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns m'a entendu, et on dit, nous avons entendu un Coran merveilleux, majestueux. Il guide vers la droiture, nous avons cru, nous avons eu foi en lui, et plus jamais on ne commettra de shirk. Allahu Akbar. Une écoute attentive, se sont convertis à l'islam, ils ont délaissé le shirk, et ils sont partis appeler les autres djinns à l'islam. Dans Surat Al-Ahqaf, وَإِصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا Ô notre peuple, nous avons entendu un livre qui a été révélé après Moussa, qui vient attester de la véracité de ce qui est passé avant. Hakana.
Ils sont arrivés mushrikoun, ils sont repartis du'at ila Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Le Coran a un effet. Naam. Avec ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala élève ce qu'il veut parmi ses serviteurs. Allah nous dit, Allah, le prophète alayhi salat wa salam nous dit, inna Allah yarfa'u bihada al-kitab aqwaman wa yadha'u bi akhari. Certes, Allah, par ce livre, va élever certaines personnes et il va en rabaisser d'autres. Le prophète, alayhi salat wa salam, nous enseigne qu'avec le Coran, tu deviendras le meilleur. Dans le hadith d'Othman, radiallahu anhu, le message d'Allah, sallallahu alayhi wa salam, nous dit, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Le meilleur d'entre vous est celui qui mémorise le Coran et l'enseigne. Lorsque Othman a pris ce hadith, il a mémorisé le Coran, il s'est assis à la mosquée et enseigné le Coran. Celui qui a rapporté le hadith d'Othman, il s'est assis à la mosquée, il a mémorisé le Coran, puis il l'a enseigné. Et ainsi de suite. Naam. Et on a mentionné Yom Al-Qiyamah, la personne, l'adepte du Coran, comme Allah Azza wa Jal, va l'élever. Avec le Coran, Allah Azza wa Jal va mettre sur toi la sérénité, la quiétude et l'apaisement. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتَدَارَسُونَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Avec l'étude du Coran, sa lecture, sa récitation, Allah Azza wa Jal fait descendre sur toi l'apaisement. T'es apaisé, t'es mutma'in, t'es tranquille, t'es heureux. Naam. Un point tel qu'il y avait un homme au temps du prophète alayhi salat wa salam qui lisait surat al-Kahf de nuit. Sa monture a commencé à bouger, à se sauver. Naam. Et il y a un nuage qui est arrivé et qui a commencé à les couvrir. Il a eu peur, il a arrêté. Le prophète alayhi salat wa salam a dit, lis au un tel. Ça, c'est la sérénité qui est descendue de par le Coran, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Avec la lecture du Coran, tu feras un commerce avec Allah Azza wa Jal dont le bénéfice sera jamais interrompu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Fatir, إِنَّ الَّذِينَ أَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. Ceux qui lisent le livre d'Allah, accomplissent la prière, dépensent de ce qu'on leur a accordé, en secret comme en public, ils espèrent un commerce qui sera jamais interrompu. Qui sera jamais interrompu. C'est-à-dire que la récompense d'Allah Azza wa Jal, naam, leur reviendra et elle sera grande et durable. Parmi les grands mérites du Coran, c'est que celui qui le lit et celui qui l'applique, il sera pour lui un intercesseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, El Quran wa Siyam, que le Coran et le jeûne viendront intercéder en faveur de leurs adeptes. C'est-à-dire que le jeune va dire au Seigneur, je l'ai empêché ses plaisirs, sa nourriture, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Le Coran dira, je l'ai empêché de dormir, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Avec la lecture du Coran, tu seras le plus riche en hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ayyukum yuhibbu ayyardwa kulla yawmin ila budhan أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كومين في غير إثم ولا قطيع رحم. Qui parmi vous aimerait se rendre à Budhan ou bien l'Aqiq et revenir avec deux grosses chamelles grasses sans avoir fait aucun péché ni coupé de lien de parenté? Le prophète alayhi salat wa salam, après qu'il les ait dit tout, nous tous au message d'Allah, il leur a dit que l'un d'entre vous aille à la mosquée, qui lise ou étudie deux versets du livre d'Allah, c'est meilleur pour lui que deux chamelles. Trois versets du livre d'Allah, c'est meilleur que lui que trois, pour lui que trois chamelles et quatre et son équivalent en nombre apporté par l'imam Moussi. Celui qui psalmodie bien le Coran, il est avec les anges. Et celui qui le lit en butant sur les mots et c'est difficile pour lui, il a deux récompenses. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: "Al mahiru bil Qur'an ma'a safarati al kiram al barara والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران" rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la baraka dans la lecture qu'il y a dans la lecture du Coran. Il nous dit: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها." Celui qui lit une seule lettre du livre d'Allah a une récompense. Et chaque récompense est multipliée par 10 fois. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une hasana, une lettre, non. Alif, c'est une lettre. Mim, une lettre. Ou Lam, une lettre, et Mim, une autre lettre. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et Allah multiplie les récompenses à qui il le veut, comme il nous mentionne dans son livre. Les adeptes du Coran sont les rapprochés d'Allah Azza wa Jal, ont un lien spécifique avec lui. Anas ibn Malik nous rapporte, comme c'est venu dans Sunan ibn Majah, authentifié par le Shir de Nushur, l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'a rahimahullahu ta'ala, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Inna lillahi ahlin. Inna lillahi ahlin min al-nas." Qalu ya Rasulallah, menhum? قالهم أهل القرآن أهل الله وخاصته. Certes, Allah a des rapprochés, des gens qui ont un lien spécifique avec lui, parmi les gens. Qui sont-ils au message d'Allah? Il a dit, c'est les gens du Coran. Il a dit, ce sont les gens du Coran, ceux qui lisent le Coran, qui méditent le Coran, qui appliquent le Coran. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a interdit d'envier les gens, de jalouser les gens. Il a dit, sauf deux, parmi les deux, رجل آتاه الله القرآن فيتلوه آناء الليل وآناء النهار. Un homme à qui Allah a donné le Coran, il le récite de jour comme de nuit. C'est-à-dire, il est permis d'espérer être comme lui. C'est pas la jalousie dans le sens qu'Allah lui enlève le bien. C'est pas el hasad, c'est dans le sens de el ribta. C'est dans le sens de Al-ribta. Barakallahu fikum. Al-Quran, c'est une cause pour soigner la sorcellerie. C'est une cause pour se préserver des shayatin. C'est une cause pour soigner le mauvais œil. C'est une cause pour soigner le mauvais œil. Donc, il ne faut pas négliger la lecture du Quran. Barakallahu fikum. On s'arrête sur cela. On remercie Allah Azza wa Jal pour ses nombreux bienfaits par lesquels il nous a comblés. Wa salli Allahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demain, inshallah ta'ala, après salatul fajr, il y aura un rappel, son importance du rappel d'Allah Azza wa Jal et des invocations du matin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.